Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris et 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Alban Le Prince. Alban, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Et à la une de ce journal, Stéphane Séjourné, proposé par Emmanuel Macron pour remplacer Thierry Breton après l'annonce de sa démission ce matin de la Commission européenne. Il se dit désavoué par Ursula von der Leyen, la présidente. Les détails dans un instant. Nous reviendrons également sur cette nouvelle tentative d'assassinat présumé qui a visé Donald Trump. Hier, la deuxième en deux mois, le suspect a été interpellé. Au sommaire également, le procès des viols de Mazan en France. L'audience, une nouvelle fois suspendue ce matin en raison de l'absence du principal accusé. Et puis, les salariés d'Audi Bruxelles qui descendent dans la rue. L'usine qui emploie 3000 personnes pourrait fermer l'année prochaine. Et Emmanuel Macron propose donc Stéphane Séjourné comme commissaire européen à la place de Thierry Breton, annonce il y a quelques minutes de l'Élysée, alors que ce dernier a annoncé ce matin sa démission avec effet immédiat, se disant désavoué par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Que s'est-il passé, Julien Chavanne ?
Eh bien, si l'influent Thierry Breton s'en va aujourd'hui, c'est à cause d'une gouvernance douteuse de la part d'Ursula von der Leyen, c'est ce qu'il écrit ce matin sur les réseaux sociaux. Le Français accuse la chef de l'exécutif européen d'avoir poussé Emmanuel Macron à changer de candidat. Ursula von der Leyen avait déjà beaucoup de mal à trouver le bon équilibre pour sa prochaine commission, respecter la parité en répondant aux ambitions de chaque pays. Elle était censée présenter demain son casting, mais cela paraît impossible.
Et alors on le disait, l'Élysée vient de faire savoir qu'Emmanuel Macron proposait un nouveau candidat.
Stéphane Séjourné, le ministre sortant des Affaires étrangères, c'est un proche du chef de l'État français, bon connaisseur des affaires européennes. Il a été député européen et président du groupe RINI.
Et ce départ de Thierry Breton, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'influence française dans l'Union européenne ?
Oui, car Thierry Breton avait une place prépondérante dans la dernière commission. Médiatique, politique, l'ancien ministre français était le commissaire le plus puissant, quitte à faire de l'ombre à sa présidente. Thierry Breton avait été choisi initialement par Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Ce changement de casting à la dernière minute fragilise la France et le chef de l'État français, désormais incapable d'imposer son candidat à Bruxelles.
Merci beaucoup Julien Chavanne. France, justement, Michel Barnier, Premier ministre, poursuit les consultations en vue de constituer son gouvernement. Il reçoit cet après-midi à 15h, heure de Paris, les responsables de la droite, Gérard Larcher, président du Sénat, Laurent Wauquiez, patron des députés Les Républicains, et Bruno Retailleau, chef des sénateurs LR. Michel Barnier, qui a promis ces derniers jours que son gouvernement serait annoncé cette semaine. Des maisons englouties, des routes emportées, des inondations spectaculaires. La tempête Boris sème le chaos en Europe centrale et orientale, où le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Il fait désormais état de 11 morts, dont 6 en Roumanie, ainsi que des milliers de personnes évacuées. L'Ukraine a proposé hier à la Pologne l'envoi d'une centaine de sauveteurs. L'Allemagne débute aujourd'hui le rétablissement des contrôles aux frontières, mesure très controversée car interdite au sein de l'espace Schengen, sauf exception. Ainsi, pendant 6 mois, pour lutter contre l'immigration illégale, des contrôles policiers seront menés aux frontières avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. De nombreux pays ont d'ores et déjà exprimé leur opposition, à l'instar de la Grèce, confrontée à une hausse des arrivées en provenance de Turquie. Son ministre de la Migration est attendu ce lundi à Berlin. Pour la deuxième fois en deux mois, Donald Trump a échappé hier à une nouvelle tentative d'assassinat présumé. L'ex-président américain et candidat à la présidentielle se trouvait sur le parcours de son club de golf en Floride lorsque des coups de feu ont été tirés près de lui. Le FBI en charge de l'enquête a annoncé l'arrestation d'un suspect. Les précisions de la correspondante de RFI, Carrie Newton.
C'est entre des buissons et la grille du golf que l'homme s'était installé, avec deux sacs à dos et une caméra GoPro. Et alors que Donald Trump est apparu dans son viseur à 300-400 mètres de là, il a glissé le canon de son AK-47 dans le périmètre du terrain de golf. Les gardes du corps de l'ancien président se déplacent typiquement à un ou deux trous devant lui lorsqu'il golfe. Et c'est l'un d'eux qui a détecté l'arme. Il a alors ouvert le feu et fait fuir le tireur. Celui-ci a pu être retrouvé grâce à un témoin clé, le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw.
Nous avons pu localiser un témoin qui est venu nous voir et nous a dit « Hey, j'ai vu un homme sortir des buissons en courant. Il a sauté dans une Nissan noire et j'ai pris une photo d'un véhicule et de la plaque. C'était génial. Nous avions donc cette information. La technologie de repérage en temps réel l'a transmise au lecteur de plaques d'immatriculation et nous avons pu retrouver et pister ce véhicule sur l'autoroute. Nous avons alerté le bureau du shérif du comté voisin. Ils ont repéré le véhicule et l'ont appréhendé et arrêté l'homme.
L'homme a bien été identifié comme étant la personne sortie des buissons du Golfe. Dans un email à ses supporters, Donald Trump a écrit « Je ne me rendrai jamais ». La Maison-Blanche et la candidate démocrate Kamala Harris se sont déclarées soulagées de le savoir en sécurité. Karine Auton, New York RFI.
Et les réactions s'enchaînent à l'international. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se dit très très inquiet. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, quant à lui, condamne la violence politique. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sigiba, a invité aujourd'hui les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge à visiter la partie de la région russe de Koursk occupée par Kiev. L'Ukraine est prête à faciliter leur travail et prouver son respect du droit humanitaire international, a-t-il déclaré. Alors que les forces ukrainiennes revendiquent le contrôle de 1000 km² des dizaines de localités, une provocation, estime de son côté le Kremlin, alors que la Russie a affirmé ce matin avoir repris 2 villages dans la région. Retour en France. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Les remerciements aujourd'hui de Gisèle Pelicot aux 10 000 manifestants qui lui ont exprimé leur soutien samedi dans toute la France lors de différents rassemblements. L'audience prévue ce matin au procès dit des viols de Mazan a par ailleurs été à nouveau suspendue jusqu'à demain. Frédéric Genot.
Oui, suspension de 24 heures. Pour l'instant, qui s'ajoute à la suspension de vendredi dernier ou à ces journées d'audience sans Dominique Pelicot la semaine dernière. L'examen de personnalité, par exemple, s'est fait sans lui, ce qui est inhabituel. Une nouvelle expertise médicale aura lieu dans la journée. Le médecin légiste et le généraliste qui examineront l'accusé diront s'il peut comparaître et à partir de quand. Hier, un scanner a permis de préciser que Dominique Pelicot souffre d'un calcul rénal, d'une infection rénale et d'un problème au niveau de la prostate. C'est ce qu'a indiqué le président de la Cour ce matin. Pour l'avocate du principal accusé, mercredi dernier déjà, la souffrance de son client était visible. S'il avait été pris en charge au plan médical à temps, on aurait pu commencer à le soigner. La semaine dernière, le président de la Cour avait estimé qu'un renvoi de l'audience serait une catastrophe. En attendant, à Avignon, c'est le flou une fois de plus dans ce procès emblématique des violences sexuelles et qui est couvert par des médias du monde entier.
Frédéric Genot. Quelques évêques au moins étaient au courant dès la fin des années 50 du comportement grave de l'abbé Pierre à l'égard des femmes. C'est ce qu'affirme le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, dans une tribune au quotidien Le Monde aujourd'hui. Il réaffirme également le travail de l'Église en France pour que la vérité soit faite sur les faits d'agression. Il plaide aussi pour que le Vatican se livre à une étude de ses archives. Le procès de Peter Sherriff, accusé d'avoir joué un rôle auprès de l'un des assaillants de Charlie Hebdo en 2015, s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Il est jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels entre 2011 et 2018, période de sa présence au Yémen au sein d'Al-Qaïda, car les juges estiment qu'il aurait facilité l'intégration de Sherif Kouachi au sein de l'organisation terroriste. Peter Sherriff encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Grande mobilisation des salariés de l'automobile aujourd'hui à Bruxelles. L'intersyndicale belge appelle à descendre dans la rue en cause. L'usine Audi de Bruxelles, qui emploie 3000 personnes, pourrait fermer ses portes l'année prochaine. Des manifestations qui interviennent en plein débat sur la concurrence des voitures électriques chinoises. Hillel Sor, secrétaire général FGTB Metal.
Évidemment, sur les solutions, il y a des différences entre nous et le patronat. Eux veulent continuer, sous l'inflexion de leurs actionnaires, à générer énormément de bénéfices, y compris dans cette période de transition où ils devraient normalement accepter que les bénéfices seront moindres et que les investissements seront plus élevés pour assurer une pérennité industrielle en Europe. Nous, ce qu'on propose, c'est un deal européen autour de l'automobile. On veut que 4-5 points de soutien à la production et à la consommation de véhicules électriques en Europe soient mis en avant. Le fait de massivement investir dans la recherche et développement pour avoir les bonnes technologies, c'est-à-dire des batteries qui soient facilement rechargeables, qui tiennent plus longtemps, que le consommateur adhère là-dessus. Mais en parallèle, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait alors un engagement ou une interdiction des constructeurs européens de fermer des sites de production en Europe.
Il est le sort secrétaire général FGTB Metal, interrogé par Agnieszka Kumor. La France lance une vaste enquête de santé aujourd'hui auprès de la population. Objectif, mieux comprendre les liens entre la santé, l'environnement et l'alimentation. Elle vise à évaluer l'état de santé de la population en France en documentant ses habitudes alimentaires, son activité physique et son exposition à diverses substances chimiques présentes dans l'environnement. Il est midi 9 à Paris, 10h09, temps universel. Prochain journal dans une heure.